Bonsoir à toutes et à tous, c'est Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Dans un sondage Ilab pour BFM TV publié hier, à 3 jours de l'acte 9 des Gilets jaunes, on apprenait que 78% des Français condamnent les violences des manifestations, mais aussi que 38% déclarent les comprendre. Avec toutes les précautions qu'il convient de prendre avec ce type de sondage, il révèle tout de même qu'une part significative de la population, plus d'un tiers, semble considérer la violence comme un moyen d'expression légitime. La question est vieille comme la philosophie politique et on peut distinguer deux grands courants de pensée depuis le 19e siècle. D'abord les héritiers du sociologue allemand Max Weber, pour qui l'État se définit comme étant le seul détenteur de la violence légitime. Norbert Elias, un autre sociologue allemand, va plus loin dans son approche en théorisant ce qu'il a appelé le processus de civilisation. Ce monopole de la violence est un élément de pacification de la société. Mais il y a aussi un autre courant qui légitime la violence du peuple en réaction à celle de l'État. Les plus connus sont Marx et Engels, qui voyaient dans la violence le moteur de l'histoire et pas seulement un moyen, regrettable mais nécessaire, d'arriver à ses fins. La violence de l'État ne serait donc pas plus légitime que celle de ses opposants. Et si le premier emploie des moyens violents, le peuple doit aussi pouvoir en faire usage. Alors la violence est-elle la continuation de la politique, mais par d'autres moyens ? C'est la question du grain à moudre ce soir, une question que vous pouvez écouter et réécouter sur franceculture.fr et en direct évidemment sur France Culture. Pour y répondre, trois invités autour de la table ici en studio. Vanessa Codaccioni, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférence au département de sciences politiques de l'université Paris 8 et membre du laboratoire CRESPA CSU. Vous êtes spécialiste de la justice pénale et de la répression, auteur fin août de La légitime défense, homicide sécuritaire, crime raciste et violence policière. C'était chez CNRS Édition. Et je crois que vous apprêtez à publier chez Textuel le 3 avril un ouvrage qui s'intitule Répression, l'État contre les contestations politiques. À côté de vous, un historien, Arnaud Houd, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à Sorbonne Université. Vous êtes spécialiste de l'histoire de la gendarmerie, des polices et des questions de sécurité. Vous aviez co-dirigé avec Jean-Noël Luc en 2016 Les gendarmeries dans le monde, de la révolution à nos jours, et c'était aux presses universitaires de Paris. Sorbonne. Enfin, notre troisième invité, Jean-Dominique Mercher, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à l'opinion, spécialiste des questions de sécurité et de défense et auteur du blog Secret Défense. Alors, avant de rentrer dans la réflexion sur la fonction de la violence et l'incapacité de penser ensemble violence des manifestants et violence des policiers, une incapacité que vous avez regrettée récemment dans un tweet, Jean-Dominique Mercher, puisqu'on a choisi un titre inspiré de l'art de la guerre de Clausewitz, est-ce qu'on assiste depuis quelques années, Arnaud Hout, à une montée aux extrêmes, de la violence, notamment dans le cadre des manifestations, aussi bien du côté des manifestants que de celui des policiers?
C'est une question qui est toujours très compliquée pour un historien, parce qu'évidemment ça dépend de la temporalité qu'on va utiliser. Si on se place sur une perspective longue, de plusieurs décennies, ou même pourquoi pas de plusieurs siècles, on ne peut pas parler d'une montée de la violence, on aurait plutôt tendance à un processus de réduction globale. Maintenant, si on se replace à l'échelle d'une vie humaine, enfin à l'échelle d'une mémoire politique ici, il me semble qu'il y a quand même un phénomène qui est intéressant, c'est que après les très fortes violences des guerres coloniales et du maintien de l'ordre pendant la guerre d'Algérie, qui relèvent d'une logique de guerre, hein, de guerre civile, 68 c'est très violent, mais en 68 il y a peu de morts. Il y en a, mais il y en a peu. Et la tendance qui suit 68, c'est clairement une tendance de pacification. Alors cette pacification, on pouvait la mesurer, hein, on prenait souvent comme point de repère justement la mort de Malik Oussekine en décembre 86. Pendant longtemps, c'était le dernier mort en maintien de l'ordre. Et puis ensuite, il y a eu Rémi Fraisse récemment. Et plus globalement, on peut remarquer, à mon sens, hein, depuis une dizaine d'années, je pense que les émeutes de 2005 ont été quelque chose d'important, les manifestations du CPE en 2006, et puis bah, plus récemment, les ZAD, Sivens, et puis également les manifestations Loi Travail, qui préfigurait peut-être une montée de la violence des deux côtés, hein, parce qu'évidemment, il y a ici l'idée que le maintien de l'ordre, c'est une coproduction, c'est à la fois ce que les manifestants feront, et aussi, bien sûr, ce que les policiers et les gendarmes feront. Et de ce point de vue, je pense qu'effectivement, il y a une montée nette de la violence.
J'ajouterai à la liste de cette montée aux extrêmes le 1er mai dernier, évidemment, qui a été marqué par des forts épisodes de violence. Jean-Dominique Mercher, mais Arnaud Hout parlait de logique de guerre, en parlant notamment du maintien de l'ordre à l'époque des guerres coloniales. Ouais. Vous avez, vous, dans votre tweet du 6 janvier dernier, dit « Je suis consterné d'observer que personne n'arrive à penser en même temps les violences contre la police et la violence de la police. Chacun semble défendre son camp et ignorer l'autre. Logique de guerre. On est dans une logique de guerre ?
C'est une logique d'affrontement, en tout cas. C'est-à-dire que personne ne se met dans la position de dire « essayons de faire baisser cette violence ». Chacun en rajoute toujours sur le... en se posant comme victime de la violence de l'autre, on ne fait que nourrir cette violence réciproque. Donc effectivement, c'est un vrai problème quand il n'y a pas une autorité politique, notamment, qui est capable de faire redescendre la pression de la violence qui s'exerce dans la rue. Effectivement, là, nous sommes dans une situation compliquée qui peut effectivement déboucher sur des logiques d'affrontement. Logique de guerre, c'est une façon un peu rapide de dire les choses.
Oui, on est sur Twitter, hein,
c'est ça. Voilà. Et peut-être qu'on en parlera, nous sommes dans une logique plutôt de révolution politique. C'est vraiment une logique, de rupture, en tout cas, plus que de guerre.
Vanessa Codaccioni, sur cette montée en puissance de la violence ces dernières années, notamment, à l'occasion des manifestations.
Je sais pas s'il y a vraiment une montée en puissance de la violence. Et moi aussi, je suis historienne de formation. J'ai beaucoup travaillé sur le militantisme d'extrême gauche depuis le début de la guerre froide. Et je me rappelle de manifestations communistes dans les années 50 où les militants allaient avec des haches, notamment. Je pense aux manifestations maoïstes dans les années 70 qui sont extrêmement violentes et qui ont donné d'ailleurs lieu, on va certainement en reparler, de la loi anti-casseurs de 1978. On peut penser aux révoltes urbaines dans les années 80-90. Donc je ne sais pas s'il y a une radicalisation, une montée aux extrêmes. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on est clairement dans un processus, dans un cycle de radicalisation conjointe. En tout cas, on a une révolte politique, tout à fait, à laquelle répond une surcriminalisation de l'opposition, de la contestation, à laquelle va répondre une radicalisation manifestante et citoyenne. C'est un cycle tout à fait connu. La question, c'est comment ça s'arrête et quand est-ce que ça s'arrête. Et le problème, c'est que l'État français aujourd'hui, ou le gouvernement français aujourd'hui, compte arrêter cette révolte politique par une surcriminalisation et une répression massive.
On aura l'occasion d'y revenir, ouais. Puisqu'il y a eu un certain nombre d'annonces qui ont été faites ces dernières semaines. Mais pour continuer sur cette idée, Vanessa Codaccioni, vous parleriez, vous, d'une logique insurrectionnelle de la part des manifestants et donc d'une logique guerrière de la part des pouvoirs publics. Est-ce qu'on est là-dedans? Vous avez notamment beaucoup étudié la question des lois d'exception, oui, au moment de la guerre d'Algérie. Oui. Est-ce que, par exemple, avec le passage et notamment à l'occasion des attentats et des vagues d'attentats qu'ont connu, mm-hmm, la France, c'est le passage dans le droit commun de mesures d'exception. Est-ce que vous diriez que ça a tendu les choses, notamment sur le point de vue du point de vue de la justice ?
Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir comment justement on traite une contestation politique comme de la criminalité ou de la délinquance ordinaire. Quand on dit que ce sont des agitateurs, quand on dit que ce sont une foule haineuse, quand on dit que ce sont des casseurs uniquement, c'est une manière de dépolitiser le mouvement. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'on ne va jamais reconnaître qu'il y a quelque chose de politique. Et s'il y a une violence, ça ne peut être qu'une violence délictueuse, criminelle, qui va s'attaquer au bien, mais qui ne sera pas reconnue comme politique. Et donc moi, je crois que l'une des grandes violences de la répression, et qui est peu dite, c'est aussi cette dépolitisation et ce fait de nier des revendications politiques pour amener ça à de la violence délictueuse.
Jean-Dominique Mercher, le sociologue Christian Moina, qui est le directeur du CESDIP, Centre de Recherche sur le Droit et les Institutions Pénales, parle d'une gestion policière du social aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on détournerait la police un petit peu de sa fonction de maintien de l'ordre pour une utilisation politique et contre les formes de contestation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou...
Oui, ça y ressemble. C'est pas sans doute pas la première fois. Mais effectivement, face à un tel mouvement politique, il ne peut y avoir au final qu'une réponse politique forte. Or, il n'y a pas de réponse politique forte. Et c'est pour ça que ça continue. C'est pas vrai que le grand débat ou les 10 milliards qui sont donnés sont des réponses politiques au niveau du défi qui est lancé au pouvoir. Donc, faute de ce défi, effectivement, il y a une gestion d'ordre public et elle est insuffisante. Et non seulement elle est insuffisante, mais elle contribue sans doute à nourrir encore plus ce mouvement. Donc, effectivement, on est dans une sorte d'impasse. On pourrait rajouter quelque chose quand même sur la violence. C'est quand même, on est dans des sociétés qui ne supportent plus la violence. C'est pour ça que la comparaison avec les années 30 qu'on entend parfois est totalement décalée. Dans les années 30, on sortait la génération qui commandait sortait de la guerre de 14, 1 400 000 morts en France. Là, en France, on a envoyé aucun soldat aucun jeune Français à la guerre depuis 60 ans. On n'a pas obligé un jeune Français à porter une arme depuis 25 ans. Et donc, ça change tout le rapport à la violence. La société ne supporte pas cette violence. D'une certaine manière, le pouvoir est tétanisé par l'idée qu'il y ait un mort.
Et pourtant, 40% des Français déclareraient comprendre la violence.
Oui, parce qu'ils soutiennent politiquement le mouvement. Ils soutiennent politiquement le mouvement.
Arnaud Hout.
Oui, pour rebondir sur ce que dit Jean-Dominique Mercier, je pense que c'est un point essentiel, c'est de comprendre que la violence, ça n'existe pas de manière brute, si j'ose dire, sans mauvais jeu de mots, mais tout simplement, c'est fonction d'un seuil de sensibilité et de la manière avec laquelle ça va être représenté. Et là, il y a deux éléments, effectivement, qui sont essentiels. D'abord, notre rapport à la violence dans une société qui est quand même pacifiée, quoi qu'on en dise. Et donc, par conséquent, la violence nous semble plus insupportable, plus spectaculaire. Et donc, on a tendance à exagérer de ce point de vue les idées de rupture. Et deuxièmement, la question de la médiatisation, qui est un point essentiel. Il ne faut pas oublier que dans les manifestations dont parlait Vanessa Codacioni des années 70, tout à fait d'accord, il y a des violences très, très fortes. Mais à part les photographes qui essayent vainement, d'ailleurs souvent, de diffuser les images de crânes ensanglantés par les coups de matraque, on n'a pas grand-chose. Aujourd'hui, il suffit de regarder la télé chaque samedi soir pour avoir des images de violence de manifestants, violence policière.
La télévision en continu, hein, puisqu'il y a les chaînes d'information continues qui sont...
On n'est même pas obligé d'attendre le samedi soir, on peut l'avoir pratiquement en direct. Et c'est un point très important dans, justement, l'imaginaire qu'on va se faire de la violence, parce qu'elle va nous paraître, du coup, beaucoup plus importante et plus spectaculaire. Elle est plus spectaculaire, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle est absolument plus importante.
Et puisqu'on parle de cette évolution de la société, il y a aussi un grand désarroi, notamment des forces de l'ordre face au mouvement des Gilets jaunes. C'est évidemment qu'on est face à des groupes qui ne sont pas structurés, qui ne savent pas manifester, pour le dire de cette façon-là, qui n'ont pas de service de sécurité, comme peuvent l'avoir les syndicats, par exemple. Et donc, des gens étant peu habitués à manifester, à la moindre manifestation de violence, justement, des policiers, réagissent, surréagissent par la violence. Vanessa Codacioni.
Ça, c'est extrêmement intéressant. Quand on écoute le discours des Gilets jaunes, même au tout début, ils disaient « nous, on soutenait la police, on avait plutôt une bonne image de la police, et dès qu'on a commencé à manifester, on a pris du gaz lacrymogène, on s'est fait nasser, on s'est fait empêcher de manifester, et en fait, la police, c'est pas ce qu'on croyait ». Et ça, c'est un élément extrêmement important quand on parle de radicalisation, même si c'est un terme sur lequel on reviendra peut-être et sur lequel il faut être extrêmement prudent. La radicalisation manifestante ou militante, elle vient souvent des violences policières. Et on voit très bien que là, la violence manifestante, elle découle principalement de la gestion très répressive, très dure du maintien de l'ordre, puisque le maintien de l'ordre a été dépassé, disons-le. Et donc, on est passé à un maintien de l'ordre qui disait, bon, on les laisse un peu faire, à une volonté de faire du corps à corps, d'attraper les gens, de les arrêter avec des milliers d'arrestations, des milliers de gardes à vue, des centaines de procès. Et donc, évidemment, les gens ne sont pas pacifistes et ne se font pas taper dessus sans réagir.
Oui, Jérémie Percher, on se souvient qu'après l'acte 2 des Gilets jaunes, où il y avait cette approche peut-être plus passive de la police, il y a eu un changement, non pas de doctrine, mais en tout cas un changement de stratégie de la part de la police. Et donc, on a vu l'utilisation des gaz lacrymogènes, l'utilisation des flashballs, l'utilisation de cette technique du nassage, d'aller au contact, et c'est vrai que ça a plutôt envenimé les choses plus que contenu la violence. Alors, il faut rappeler ici que dans matière de maintien de l'ordre, la police n'a pas beaucoup de liberté, c'est quand même les politiques qui donnent les instructions.
Oui, bien sûr. Il faut comprendre que la manifestation politique ou sociale, enfin la manifestation, c'est un rituel. C'est un rituel que les deux camps observent. Donc le maintien de l'ordre est un rituel. Le problème là, c'est qu'on est face à quelque chose de totalement nouveau. C'est le surgissement d'un mouvement totalement inattendu, inédit, et qui ne se comporte pas selon les rituels habituels d'une manifestation, d'une grande manifestation de rue, avec éventuellement ce rituel des casseurs qui arrivent en fin de cortège, ou le rituel d'affrontement dans une cité de banlieue, où quand même ça se passe à peu près toujours de la même façon, donc chacun sait comment gérer les choses. Les deux camps savent gérer le truc. Et là, ça ne se passe pas comme prévu. Et chaque semaine, d'une certaine manière, ça se passe différemment. Ce qui montre que ce mouvement des Gilets jaunes sur les réseaux sociaux a une capacité, pour employer un mot un peu militaire, d'innovation tactique assez forte. Ils ont, par exemple, je me souviens très bien, j'ai piégé la police en disant « on vient au château de Versailles » et ils sont allés à Montmartre. Donc il y a des effets de tactique extrêmement... Et la police court après. La police court après. Les services de renseignement ne ne comprennent pas, sont incapables de dire voilà demain ce qui va se passer.
Arnaud Hout, on a vu cette dépôt de plainte, par exemple, le 17 décembre, par Antoine, un jeune manifestant de Bordeaux qui a eu la main arrachée par une grenade de désencerclement. On a beaucoup parlé de l'utilisation des véhicules blindés, de la gendarmerie. Première utilisation de véhicules blindés, j'ai même pu lire, je crois que c'est une révélation de Marianne, qu'il y aurait eu un dispositif in extremis pour, comment dire, un gaz de paralysant, voilà, exactement, qui aurait fait tomber tout le monde à des centaines de mètres à la ronde. Je ne sais pas vraiment ce qu'il en est, mais malgré tout, on voit l'utilisation d'armes non létales, et évidemment, c'est pas, ils n'utilisent pas leurs pistolets, malgré les suggestions de certains anciens ministres de l'Éducation nationale. Cette utilisation d'un armement comme celui-ci, est-ce qu'il est de nature à augmenter la violence selon vous, ou plutôt il est pensé pour la désescalade?
C'est une vraie question, parce que pour le coup, c'est un sujet qu'on ne connaît pas très bien. L'histoire de l'équipement réellement utilisé par les forces de l'ordre dans les manifestations, on a bien sûr les dotations réglementaires, mais c'est pas toujours facile de savoir ce qui est vraiment utilisé. Pour une raison très simple, c'est que souvent il y a la dotation réglementaire et il y a ce qui est réellement emporté et qui n'est pas forcément réglementaire. Et ça, on en a beaucoup d'exemples, y compris assez tard dans le XXe siècle. Alors, aujourd'hui, j'ai pas d'exemple, mais pour vous donner, dans les années 70-80, on a encore des exemples de policiers qui vont être signalés portant des matraques qui sont pas de la longueur réglementaire. Très récemment, un policier qui portait une cagoule avec un masque en tête de mort, qui a dû l'enlever d'ailleurs. Voilà, il y a aussi finalement ce que les policiers vont amener éventuellement de manière extra-réglementaire. Maintenant, si on reste au dispositif réglementaire, la tendance de longue durée, elle est assez simple, c'est de renoncer aux armes létales et de trouver des dispositifs intermédiaires. Le but étant de moins ouvrir le feu, c'est pas plus mal. Mais en même temps, le paradoxe, c'est que si vous donnez des armes non létales, vous facilitez l'usage de l'arme. Puisque justement, on va considérer qu'elle est moins dangereuse, que ça prête moins à conséquences. Un policier n'ouvre pas le feu sans réfléchir. Il ouvre d'ailleurs quasiment jamais le feu dans toute sa carrière. Et c'est tant mieux, encore une fois. En revanche, le flashball, en revanche, les grenades de désencerclement, et surtout les lacrymogènes, parce que c'est vrai que l'usage des lacrymogènes est relativement banalisé, mais quand on les prend dans la figure, c'est pas exactement banal.
Et oui, mais c'est censé les jaunes, permettre justement de ne pas aller au contact.
Ouais. Ça faut permet de ne pas aller au contact, donc c'est effectivement un point important.
Ouais. Il faut qu'on entend, et on peut les partager, beaucoup de critiques sur l'action policière, mais quand même, nous avons en France des forces de maintien de l'ordre, que ce soit les CRS ou les gendarmes mobiles, qui ont un niveau de professionnalisme assez élevé, parce que ce qu'ils font, c'est pas facile, quand même. Et il y a pas de mort.
Enfin là, il se trouve que depuis le début de la crise des Gilets jaunes, il y a eu un certain nombre
d'accidents. Ouais. Mais il n'y a pas de morts dans les manifestations. Et ça, c'est très très important. Il y a beaucoup de blessés. Beaucoup de blessés des deux côtés, et donc quand même on a des forces de maintien de l'ordre spécialisées qui ont une longue expérience de ça, mais là qui se trouvent, comme on le disait, un peu dépassées par les événements, parce que l'événement en lui-même est nouveau, et donc on peut pas leur, d'une certaine manière, on peut pas leur reprocher de ne pas être adapté à un événement qui vient de surgir. Donc ne jetons pas toujours la pierre à ces unités qui en prennent plein la tête aussi.
Mélissa Codacchini.
Oui, la question que posent les sociologues de la police est la suivante. Est-ce que la chute radicale du nombre de morts dans les manifestations signifie une déradicalisation de la police ou une moindre violence policière? La réponse est évidemment non. Il n'y a pas de morts volontaires, on pourrait dire, vous dites c'est un accident, mais il y a quand même une Algérienne de 80 ans qui est décédée en ouvrant sa fenêtre. Mais c'est surtout que combien de personnes ont été mutilées à vie dans ces manifestations, mais c'est des dizaines et des dizaines, des gens qui ont eu les mains arrachées, des bouts de corps qui ont été arrachés, des joues, enfin, c'est des qui ont perdu des yeux, enfin, c'est énorme. Et ça, c'est une répression à vie. Enfin, heureusement, effectivement, qu'on a des images aujourd'hui pour voir un tel degré de violence, mais ce que je voulais dire, et c'est ce que disent les sociologues aussi, c'est attention à ne pas focaliser sur le nombre de morts, qui ne dit finalement pas grand-chose du degré de violence de la police.
Alors, il y a eu en effet un rapport d'Amnesty International le 17 décembre dernier sur l'usage excessif de la force lors des manifestations des Gilets jaunes. Donc c'est vrai que c'est une question qui se pose, mais Arnaud Hout, il faut rappeler, je le disais tout à l'heure, mais peut-être insister un petit peu, que tout ça relève quand même de la décision politique. On cite souvent la fameuse lettre du préfet Grimaud en 68 qui a permis, dit-on, et le fait qu'il allait tout seul dans sa 4L banalisée, au contact des manifestants, incitant ses commissaires aussi à aller au contact des manifestants, que ça aurait beaucoup permis de ne pas avoir les morts qu'on aurait pu avoir en mai 68. À l'inverse, les massacres de 17 octobre 61 sont imputables directement à la politique du préfet Papon. Aujourd'hui, est-ce que cette montée de la violence, elle est imputable à la politique, aux politiques ?
Certainement en partie. Alors il faut distinguer peut-être deux choses. Il y a les manifestations parisiennes et il y a l'ensemble des manifestations qui vont exister en province et pour lesquelles on n'a pas forcément tous les éléments d'analyse, notamment sur le rôle des élus locaux qui peut parfois servir de médiation. Maintenant, sur ce qui se passe à Paris, là, on est évidemment dans une logique très nationale. Et là où il peut y avoir une responsabilité du politique, c'est dans les discours justement de... Bah, je vais reprendre un exemple. Parler de politique d'ultra-fermeté, je ne sais pas si c'est tout à fait définissable.
C'est les mots du Premier ministre.
C'est les mots de Christophe Castaner. Mais on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, ultra-fermeté. Qui parle de politique de fermeté, c'est évidemment dans sa fonction. Mais ultra-fermeté, je ne sais pas, j'ai le sentiment que c'est un peu un chiffon rouge qui, évidemment, contribue pas forcément à apaiser les débats. Mais c'est ce que disait tout à l'heure Jean-Bénigne Garcher. La question ici, elle est fondamentalement politique.
La comparaison avec 68 est intéressante parce que en 68, on est face à des gens qui sont quand même assez responsables. C'est-à-dire qu'on a Georges Pompidou et le préfet Grimaud qui vont gérer ça pour les pouvoirs publics de manière absolument responsable. On a enfin un grand parti communiste qui quand même a pas envie que ça déborde trop et contrôle. Qui a un appareil politique extrêmement structuré à l'époque. Et puis, on a même dans le mouvement contestataire le plus radical, il y a des interlocuteurs. On se souvient tous de Dadi Cohn-Bendit, qui ne sont pas non plus des fous furieux. Donc, on avait là la conjonction, effectivement, de quelque chose qui a permis, avec quand même beaucoup de violence, qui a permis de maintenir les choses. Aujourd'hui, on n'a pas l'impression ni d'avoir un Daniel Cohn-Bendit, ni d'avoir un parti communiste, ni d'avoir un préfet Grimaud, ni surtout d'avoir un Georges Pompidou. Donc c'est un peu le souci.
France Culture, du grain à moudre, Raphaël Bourgois.
Du grain à moudre, il est 18h42 sur France Culture. On pose cette question ce soir. La violence est-elle la continuation de la politique par d'autres moyens? Et pour y répondre, trois invités. Vanessa Kodetchny, qui est politiste spécialiste de justice pénale et de la répression. Arnaud Hout, qui est historien de la police et de la gendarmerie. Jean-Dominique Mercher, qui est journaliste à l'Opinion et auteur du blog Secret Défense. Alors, puisqu'on a parlé radicalisation, puisqu'on a parlé maintien de l'ordre, parlons maintenant, si vous le voulez bien, des mesures qui sont prises, et notamment la réponse judiciaire, Vanessa Kodetchny, parce que la violence, c'est évidemment la violence physique, mais c'est aussi, par exemple, les 5339 gardes à vue en France, dont j'ai plus le chiffre en tête, mais une partie très très significative a abouti, plus de la moitié je crois, à des non-lieux, et donc ça interroge toujours. On a parlé aussi de gardes à vue préventives, de gens qui partaient en garde à vue parce qu'ils avaient des lunettes de piscine dans leur voiture. Et est-ce que, on sait, hein, puisqu'on a fait un peu la liste des philosophes politiques et depuis Thomas Hobbes, que le pouvoir de coercition est un pouvoir important et qu'il passe par la justice. Mais est-ce que cette privation de la liberté, cette judiciarisation du maintien de l'ordre, il ne faut pas aussi la regarder de près?
Oui, alors ce qui est assez intéressant, enfin c'est dramatique, mais ce qui est assez intéressant à regarder quand on regarde la répression de ce mouvement-là, c'est que le judiciaire a aussi une place très importante. On voit très bien l'action policière dans la gestion des manifestations, on voit bien l'action policière avec toutes ces gardes à vue qui sont massives. Et ça, je pense que ça date quand même de plusieurs années. Moi, j'ai en tête des souvenirs très précis d'états d'urgence où il y avait eu des gardes à vue massives. Au lycée Arago aussi, il y a une centaine de personnes qui ont été gardées à vue, des lycéennes et des lycéens. Donc, il y a une tendance à massifier la garde à vue. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Ce qui est une manière, en réalité, d'empêcher les gens de manifester, qui est une manière de les déradicaliser, de leur faire peur. Ça ne marche pas. Mais en tout cas, c'est vu comme ça. Mais ce qui est très intéressant dans ce mouvement-là, c'est le nombre de comparutions immédiates et le nombre de procès qui sont prévus et qui est très élevé. C'est des centaines et des centaines de comparutions immédiates. Rappelons que la comparution immédiate, c'est presque le degré zéro de la possibilité de se défendre. C'est 29 minutes d'audience. Enfin, c'est très rapide. C'est avec une forte probabilité d'être condamné par ailleurs. Donc, d'un côté, on a un appareil policier qui devient très, très important. De l'autre, on a cette justice qui commence à se mettre en place avec énormément de procès, des condamnations, etc. Et puis, on a ces futures lois qui vont arriver, dont on va peut-être parler, sur le fichage des militants.
Oui, c'est en effet un fichier des casseurs. C'est une des propositions qui est faite. Il y en a d'autres, Arnaud Hout, sur cette intervention de la justice. Est-ce que c'est encore une fois, vous êtes l'historien ici ce soir, même si Vanessa Codet-Tunis nous a rappelé qu'elle était historienne de formation, mais est-ce que cette utilisation de la justice, elle est particulièrement exceptionnelle, ou est-ce que finalement, dans l'histoire de la République, française, c'est chose commune?
Alors, si on raisonne sur l'histoire de la République française et si on remonte par exemple à la Troisième République, il y a 100 ans, on va trouver des points de comparaison assez proches. Moins d'arrestations, beaucoup moins de gardes à vue, et beaucoup moins d'arrestations, mais des condamnations beaucoup plus lourdes, pour des raisons liées au fait notamment que la justice était extrêmement peu indépendante, et c'est vraiment un euphémisme, et que donc la question se posait tout à fait différemment. Maintenant, sur la période récente, il est évident que là, il y a une tendance depuis... sans doute plus d'une décennie, à voir justement, non seulement, j'allais dire, ce qui a été décrit par Vanessa Codet-Tunis, c'est-à-dire justement cette montée du nombre, notamment de gardes à vue et de comparution immédiate, mais aussi, ce qui est peut-être encore plus nouveau et encore plus significatif, l'utilisation à des fins de communication des chiffres, des statistiques qui sont produites. Et c'est assez intéressant parce qu'on entend dans le débat public justement tous ces chiffres dont on ne sait pas très bien quoi faire, parce que qui peut interpréter le nombre de gardes à vue après un samedi de manifestation? Mais c'est là encore des éléments qui finalement sont jetés un peu comme des braises dans le débat public.
Bonjour Dominique Mercier, on est quand même assez sévère avec les pouvoirs publics depuis le début de cette émission. Il faut bien le dire, peut-être aussi du fait de ce que vous décriviez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de mal à cerner et à parler des groupes, des gilets jaunes qui sont très disparates et qui ont des modes d'action très différents. On reviendra peut-être justement sur la présence au sein de ces groupes de ce qu'on pourrait dire de casseurs professionnels ou de groupes ultra violents. Mais il y a un terme qui revient régulièrement dans la bouche des pouvoirs publics et qui n'est pas vide de sens, c'est celui d'ordre républicain.
Oui. Alors moi, ça me fait toujours beaucoup sourire, l'ordre républicain. Non pas que je respecte pas l'ordre public ou la démocratie, mais n'oublions pas une chose, un petit détail historique, la République est née d'une insurrection. Et elle a été renouée, la première république, la seconde république, la deuxième république, la troisième république, on peut même sans doute dire la quatrième d'une certaine manière, la cinquième est un peu née d'une opération militaro-politique un peu compliquée en mai 58. Mais bref, ce qui est à la naissance de la République en France, c'est une insurrection, que l'on fête d'ailleurs quasiment chaque année, le 14 juillet, alors on dit c'est la fête de la Fédération, en réalité c'est la prise de la Bastille. Donc effectivement, on confond un peu république, démocratie. La démocratie, c'est autre chose, ça doit fonctionner sans violence, mais l'ordre républicain, oui, moi ça me fait sourire.
Enfin, on pourrait ajouter à l'insurrection la réaction, parce que c'est souvent un couple qui marche ensemble, hein, Arnaud Hout.
Oui, alors pour rebondir justement sur ce 14 juillet qui nous sert de fête nationale, personne ne sait ce qu'on commémore. Et il faut bien le comprendre, parce que c'est dans le texte même de loi des origines. Quand, en 1880, la Troisième République installée décide de faire du 14 juillet la fête nationale, les monarchistes se révoltent en expliquant que c'est un scandale, qu'il n'est pas question pour eux de commémorer la mort du gouverneur de Launay, la prise de la Bastille, etc. Donc, le rapporteur de loi Henri Martin, le républicain, leur répond « Vous inquiétez pas, on commémore la fête de la Fédération 14 juillet 1790. » Ce à quoi les républicains répondent « On va quand même pas commémorer une fête avec le roi. » Et donc, Henri Martin continue en disant « On commémorera le 14 juillet 1789. » Bilan, on fait ce qu'on veut. Alors, c'est toute l'indétermination de la République, parce que la République, elle est effectivement fondée sur un désordre, mais avec pour objectif de ramener un ordre.
L'ordre républicain, oui, ça ne veut pas dire grand-chose, mais je crois que ça veut dire vous devez respecter l'État. C'est ça que ça veut dire. Vous devez respecter l'État et vous devez
Ce qui ne paraît pas absurde. Hein.
Oui.
Vous êtes peut-être anarchiste, je ne sais
non,
pas.
Non, mais enfin, je veux dire, ça. Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, ce qui est très intéressant avec cette expression d'ordre républicain, c'est que ça veut dire si vous voulez contester, il faut le faire dans les formes conventionnelles de lutte. C'est-à-dire, on va discuter et après vous voterez. Et tout ce qui est non conventionnel n'est pas pris en compte et est rejeté, criminalisé et va être poursuivi, réprimé. Et donc je pense que c'est ça l'ordre républicain, c'est respecter l'État, respecter la police, respecter les institutions et soyez légalistes.
On a le sentiment que ce que nous disent les pouvoirs publics, c'est sans une certaine dose de violence, comment l'ordre peut-il être respecté? La réponse de Vanessa Codet-Tunis et Arnaud Hout, c'est mais sans une certaine dose de violence, comment renverser l'ordre justement?
Oui, ben, moi je pense ici à Victor Hugo, parce qu'il y a un discours qui est très célèbre, alors qui est souvent décontextualisé, mais Victor Hugo en 1849, je crois, ou en 1850, explique que le droit de vote a aboli le droit à l'insurrection. En substance, quand vous n'avez pas le droit de vous exprimer dans les urnes, ou d'être écouté en tout cas, vous avez le droit de vous révolter. Mais du moment où vous obtenez le droit à l'expression, et une expression entendue, ben vous devez ranger les armes. Alors cette idée-là, elle est intéressante, parce que tout le problème, justement, c'est de garantir après le droit à l'expression. C'est-à-dire qu'on peut considérer ici que le fondement de l'ordre républicain, c'est une promesse, c'est la promesse que chaque citoyen peut être entendu. Et on revient encore une fois à toute la question politique que pose la crise d'aujourd'hui. Ben, on a des citoyens qui se plaignent à tort ou à raison de ne pas être entendus et qui, justement, cherchent à l'exprimer de cette manière.
Et de ne pas être représentés, même. C'est sans doute une des clés du problème. Mmh. C'est qu'il y a un décalage entre la représentation et enfin, les gilets jaunes et beaucoup d'autres considèrent qu'ils ne sont pas représentés. Et force est de constater, sans être un fanatique de la représentation proportionnelle, qu'il est quand même étrange qu'un parti qui n'est pas un parti qui a mes préférences comme le Rassemblement National, qui fait 25% des voix, ou fait, qui fait même 35% au second tour de la présidentielle, n'a que 3 ou 4 députés sur plus de 500. Donc les gens ne se sentent pas représentés. Donc ça crée de la violence, cette absence de représentation. Donc effectivement, c'est un souci.
Oui, c'est la question finalement de la légitimité qui est au cœur des débats. On le voit bien avec les gilets jaunes, la légitimité de la violence, la légitimité de l'insurrection, la légitime défense. Je vous tends des perches, Vanessa Codaccioni. On va pas régler ici cette vieille question, c'est pas l'objet, entre l'égalité et légitimité, mais puisqu'on a des instruments légaux qui vont être mis en place, parlons-en un petit peu puisqu'il nous reste plus beaucoup de temps si vous le voulez bien, notamment cette proposition de créer un fichier des casseurs sur le modèle des fichiers qu'on utilise contre les hooligans, les ultras dans les stades de foot. Il y a aussi Édouard Philippe qui se dit prêt à durcir la loi pour sanctionner les manifestations non autorisées. Il y a l'idée de durcir les sanctions contre ceux qui portent des cagoules. Il y a tout un arsenal juridique qui est en train de se mettre en place à l'occasion de ces manifestations. Alors, des gilets jaunes.
Trois remarques à propos de ça. La première, c'est que ce qu'on observe très bien depuis au moins le début des années 2000, c'est une circulation des pratiques répressives entre lutte contre le hooliganisme, lutte contre le terrorisme et répression de l'activisme. Et ça marche très bien au niveau européen, c'est-à-dire qu'au niveau des sommets internationaux, de la gestion des sommets internationaux, on a appliqué à des manifestants et des militants des mesures prises contre les hooligans. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il y a une tendance à ficher tout le monde. On est dans une surveillance généralisée, c'est pas, les militants ne seront pas fichés que dans ce fichier-là, il y a aussi fichier S, il y a le fichier FIJAT par exemple pour les activistes corses, basques, etc. Donc on a une tendance à ficher. Mais ce que ça dit, plus généralement, ce type de fichier, donc c'est de fichier des interdits de manifester, et à partir duquel on pourra interdire des gens de manifester, c'est qu'en fait on ne veut plus que les gens manifestent. Ou en tout cas, on ne veut plus que certaines personnes manifestent et on tend à réduire à peau de chagrin le droit de manifester. C'est une attente claire au droit de manifester et ça montre aussi quelque chose qui est beaucoup plus profond, qui me semble très important, c'est qu'on passe vraiment à une répression préventive.
Le gouvernement s'en défend par la bouche de son porte-parole, Benjamin Griveaux, qui a rappelé l'autre jour sur France Inter son attachement au droit de manifester. Il faut le dire évidemment à Arnaud Hout, c'est peut-être tout simplement une volonté d'encadrer suffisamment les manifestations pour qu'elles se déroulent sans violence. C'est quand même assez légitime de la part du gouvernement de vouloir cet ordre public.
En fait, la liberté de manifester est pour le coup un droit qui est très complexe et qui a mis beaucoup beaucoup de temps à se structurer et de manière très pragmatique. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de rappeler que le fondement juridique du droit de manifester, c'est un décret de 1935. Mais avant ça, il y avait déjà des manifestations. Et ces manifestations, elles existaient plus ou moins bien, parfois violemment et parfois très pacifiquement. Et ça, c'était vraiment en fonction justement du dialogue qui pouvait s'établir entre les organisateurs de la manifestation, ou du moins ceux qui pouvaient en assumer la responsabilité, et de l'autre, l'autorité publique. Et c'est assez intéressant parce que dans cette zone qui était une zone grise, finalement, il n'y avait pas de droit de manifester, mais il y avait des tolérances. On a quand même eu une sorte d'apprentissage des limites. Alors toute la question aujourd'hui, c'est vrai que j'entends... ce que disait le Premier ministre, c'est le paradoxe de constituer des fichiers pour mieux défendre, dit-il, la liberté de manifester. C'est quand même très paradoxal, mais c'est vrai que ça pose une question derrière, c'est comment aujourd'hui garantir justement une manifestation qui soit acceptable des deux côtés, c'est-à-dire qui ménage effectivement des enjeux de sécurité légitimes, mais qui permettent, là encore, à ceux qui veulent manifester d'être réellement entendus.
Oui, Jean-Dominique Mercher, c'est quelque chose qu'on a entendu dans la bouche des gilets jaunes non violents, de dire les casseurs, et qu'on entend d'ailleurs systématiquement dans toutes les manifestations, puisque les casseurs restent une minorité, les violents ou ultra-violents restent une minorité, ils viennent pourrir, passez-moi l'expression, la manifestation, et donc nous rendre inaudibles.
C'est parfois un peu facile comme argument, parce qu'on se rend compte aussi que la majorité des gens qui ont été arrêtés pour des faits de violence étaient des primo-manifestants, des gens qui n'avaient jamais de leur vie participé à une manifestation. Et au contraire des vrais casseurs qui ont une capacité à échapper à la police beaucoup plus rapide. Donc on voit l'immense majorité des gens arrêtés sont des gilets jaunes de base, d'une certaine manière, qui se radicalisent et dans le mouvement politique et dans le cours de la manifestation. Donc effectivement, ces mesures sont un peu étonnante.
Oui, mais enfin, malgré tout, Vanessa Codiacioni, ils existent, ces black blocs, ces mouvements ultra-radicaux, que ce soit d'extrême gauche ou d'extrême droite. On a vu encore récemment, à l'occasion du procès sur les dégradations de l'Arc de Triomphe, on ne peut pas dire qu'ils n'existent pas et qu'ils ne sont pas là pour faire un maximum de dégâts et générer un maximum de violence.
Bah, c'est une politique, en fait. C'est un engagement anarchiste. Il faut regarder ce que disent les black blocs. Ils légitiment la violence par les injustices sociales, les injustices politiques, que par la violence du capitalisme, de l'économie. C'est pour ça que les banques sont ciblées en priorité, par exemple, ou les commerces. Bon, après, on peut en penser ce qu'on veut, mais en tout cas, c'est pas de la casse pour de la casse. Il y a de la violence politique derrière.
La violence symbolique, Arnaud, c'est un terme qui court tout au long, j'allais dire l'histoire, c'est un peu trop, encore une fois, je ne vais pas vous demander de nous faire l'histoire de cette question-là, mais malgré tout, c'est vrai qu'on a entendu ça aussi opposé à la violence, dire que la violence physique était légitimée par une forme de réponse à la violence symbolique, évidemment celle de la pauvreté, celle qui est générée par le système, pour reprendre une expression qu'on entend beaucoup.
Mais c'est toute la question de la légitimation de la violence, bien sûr, qui peut être posée de cette manière-là. Maintenant, ce qu'on peut rappeler aussi, c'est que dès les mouvements révolutionnaires, dès la Révolution française, dès la Révolution de 1848, dès la Commune de Paris, il y a un mot qui était omniprésent, un slogan qui revenait tout le temps, c'est « mort aux voleurs ». Et ça, c'est les Républicains qui installent cette expression en disant justement les voleurs, c'est-à-dire traduisés en langage contemporain, les pillards de fin de manif, sont ceux qui sont en train de décrédibiliser notre mouvement. Et c'est pour cette raison justement qu'il y a une forme de police interne de la manifestation qui peut être extrêmement violente. Les services d'ordre cégétistes des années 80, quand ils trouvent justement des pillards, ils les évacuent manu militari. Mais ça, c'est quelque chose probablement que les manifestations d'aujourd'hui, n'étant pas très organisées et pas du tout habitués pour le coup, semble-t-il, à manifester, ils ont beaucoup plus de mal à gérer ce risque.
Donc finalement, Jean-Dominique Mercher, quand le porte-parole du gouvernement de Benjamin Griveaux dit que la violence, quelle qu'elle soit, doit être bannie du champ républicain, c'est un vœu pieux.
Oui, c'est un vœu pieux. Si on est dans un mouvement, il y a toujours eu de la violence dans les mouvements politiques. Lorsqu'on est dans des situations de crise,
répond à une violence d'État.
Voilà, mais c'est naturel. C'est comme, c'est absolument inévitable ce genre de situation lorsqu'on s'est mis dans les conditions de créer une situation politique qui d'une certaine manière, qui ne peut pas se résoudre sans des actes politiques extrêmement forts. Donc il y a de la violence. C'est regrettable d'en être arrivé là. Reste à savoir pourquoi nous en sommes arrivés là. Mais ça,
c'est une autre émission.
Parce que
non, il nous reste 30 secondes. Vanessa Codacioni,
je voudrais juste dire que la violence, c'est, on en pense ce qu'on en veut, c'est légitime ou pas légitime, légal ou illégal. En fait, c'est souvent illégal, sauf quand c'est la police. Mais ça fait partie de la politique.
Enfin, ça peut être aussi illégal quand c'est la police. Oui, vous noterez que l'IGPN a été saisie, c'est-à-dire l'Inspection générale de la police nationale a été saisie d'un certain nombre de cas.
La violence a toujours existé. C'est de la politique. Et ça fait partie du répertoire, mais il faut bien dire qu'un mouvement n'est jamais que violence. et qu'il faut faire attention à ne pas focaliser que sur les violences d'un mouvement parce que c'est souvent qu'une toute petite partie de ce qui s'y passe.
Merci à tous les trois. On mettra la référence de vos livres sur la page du Grain à Moudre, bien entendu. Merci aussi à l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Virginie Leduo, Fanny Richer, Antoine Dulster, Guillaume Laguigné et Antoine Tricot. À la réalisation ce soir, c'était Peyré Legras et à la prise de son, Pascal Baudin.